Bonjour chers auditeurs, bonne journée à vous. Et c'est si vous voulez me prêter vos oreilles avec Jasmine à l'animation et Stéphane à la technique. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a poigné et qui m'a touché le cœur, Michel Delpech, qui s'appelle « Vivre ». Il y a 3 mois, j'ai guéri. J'avais très envie de retrouver la scène. Il y a 2 mois, la douleur s'est réveillée. Je me suis tirée par l'oreille pour aller consulter. Je n'avais pas envie. Il y a 1 mois, je suis retournée à l'hôpital. En fait, je n'avais pas guéri. Ce n'est pas très original quand on a un cancer. Mais bon, ce n'est pas une raison pour se flinguer. Il vaut mieux même éviter de le faire si on a envie de guérir. En février 2013, alors qu'il achevait la rédaction de son coming out religieux, où il se dévoilait chrétien passionné de théologie, Michel Delpech apprenait l'impensable. Lui, le chanteur à la voix d'or, était atteint d'un cancer de la langue. Du jour au lendemain, sa vie en a été bouleversée. Il reprend aujourd'hui la plume pour raconter son chemin face à la maladie. Il lève le voile sur l'après, car ce cancer l'a transformé. Lui qui, admet-il, n'avait jamais été un joyeux drill, redécouvre la beauté de la vie. L'amour, les petits plaisirs, l'écoute de soi sont ses nouvelles armes. Un témoignage éblouissant de force et de franchise. Aimer la vie. Est-ce que je m'aime assez pour pouvoir aimer la vie? Voilà une question que je ne m'étais jamais posée, que je n'avais jamais appris le temps de creuser. Quand on est dans un tourbillon constant, il faut de la volonté pour se livrer à une véritable introspection. En réalité, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. Charité bien ordonnée commence par soi-même. S'aimer s'apprend, et j'essaye. Ce n'est pas simple. Il m'arrive de m'aimer, mais pas souvent. M'aimer quand j'ai bien réussi quelque chose, que je suis content de moi. Est-ce cela, s'aimer? C'est en tout cas un devoir, une condition pour s'ouvrir aux autres, donc à la vie. Je ne sais pas si ma vie a été sublime. Je pense qu'elle n'est pas un chef-d'œuvre, mais j'ai vécu des moments sublimes, souvent en lien avec la musique, la chanson, l'écriture. Quand on se livre à sa passion, on peut toucher au sublime. Je ne parle pas là forcément de la qualité de ce que j'ai pu écrire, mais de l'émotion que j'ai ressentie en l'écrivant, de l'impression de magie qui se dégage alors et qui nous dépasse. On se sent porté. Quand je chante, je vis de la même manière des moments d'une force incroyable. En studio d'enregistrement, quand on pioche et pioche en soi jusqu'à être vraiment libéré, puis qu'on s'élance sans se brider, c'est l'exaltation. Sur scène aussi, évidemment. Et peu importe la scène, ça peut être aussi bien l'immense palais des congrès à Paris qu'une petite salle des fêtes dans une ville de province. Par une étrange alchimie, on se sent d'un seul coup très présent. Puis, plus rien ne compte, à part l'ici et le maintenant. Et on se lance devant le public. L'interprétation d'une chanson se fait alors différente. Elle devient unique. On exprime des choses qui vont au-delà de simples paroles. On y met son âme. Les acteurs, les politiciens, les sportifs éprouvent sans doute la même exaltation. Mais elle ne leur est pas réservée. Le jardinier, même du dimanche, qui découvre ses petites tomates ou ses petites fleurs. Le cuisinier qui réussit de manière magistrale une improvisation. Le mathématicien qui résout une équation. Le bricoleur qui vient à bout d'un montage compliqué connaît ces moments où le sublime est à la portée de la main. Ces moments sont à notre portée de tous, mais pour les vivre, il faut s'être d'abord entièrement investi dans sa tâche, avec passion, avec patience. J'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. Du moins, j'ai eu cette chance. Je ne sais pas à cet instant si je pourrai à nouveau chanter un jour. Depuis mes 18 ans, la chanson a été toute ma vie. Ce n'était pas un travail, ou alors je pourrais dire que j'ai eu l'énorme chance de travailler ma passion. Je comprends que ceux qui ont un métier difficile, contraignant, peu gratifiant, aient envie et besoin de prendre leur retraite. Mais la retraite ne doit pas signifier le retrait de la vie, au contraire. Ceux-là doivent alors vivre pleinement la chance qu'il leur est donnée de se consacrer à leur passion, c'est-à-dire à ce qui les pousse à se réveiller le matin. Moi, je n'ai pas envie d'arrêter de chanter. Le cancer aura peut-être raison de ma carrière, il est trop tôt pour le savoir. Même si je parviens à m'offrir un nouveau tour de piste, je suis conscient qu'un jour, je n'aurai plus la même énergie, la même maîtrise de la voix. Je tirerai alors ma révérence, plein de ce qui aura fait ma vie. Je n'aime pas regarder en arrière, mais si je le fais ici, c'est pour constater sincèrement que je ne regrette rien. J'ai suivi mon chemin, et peu importe si je l'aime ou pas, c'était le mien. Ceci dit, j'admets que j'ai eu une vie beaucoup plus marrante, surprenante et plus exaltante que bien d'autres. Certains petits tracas m'ont sans doute été épargnés. Quand j'étais jeune, à l'âge où d'autres connaissent les difficultés et les plaisirs de la vie d'étudiant, je n'avais pas à me demander comment j'allais boucler mes fins de mois à me préoccuper du réfrigérateur vide et autres soucis du quotidien. En vérité, ce passé m'handicape, parce qu'il a des tas de choses que je ne sais toujours pas faire, parce que je ne les ai pas apprises au moment où il le fallait. Cuisiner, bricoler, me prendre en charge. Et puis pour certaines choses, je peux être incroyablement timorée. Je n'ai pas osé apprendre le piano parce que tout jeune, j'écoutais des virtuoses et que je savais que je n'atteindrais jamais leur niveau. J'en étais un peu complexée, alors je n'ai pas osé. J'aurais aimé savoir cuisiner, mais je savais que je ne réussirais pas à préparer des plats comme un grand chef. Alors là encore, je n'ai pas osé. Dommage. Elle est longue la liste de ce que je n'ai pas osé faire et que j'aurais aimé faire. Me familiariser avec un ordinateur sans être un programmateur de génie, partir en longue retraite spirituelle sans me vouer à tout jamais à la spiritualité exclusivement, c'est idiot, je le sais. Je passe certainement à côté de choses passionnantes. Je m'en veux. J'aime la vie, mais j'oublie parfois de la croquer à pleines dents.
À sa façon de nous appeler ses gosses, on voyait bien qu'elle nous aimait beaucoup. C'était chez elle que notre argent de poche disparaissait dans les machines à sous. Après les cours, on allait boire un verre. Quand on entrait, Lorette souriait. Et d'un seul coup, dans le son, nos problèmes disparaissaient quand elle nous embrassait. C'était bien chez Lorette, quand on faisait la fête, elle venait vers nous, Lorette. C'était bien, c'était chouette, quand on était fauchés.
La première cuillerée de glace. Un livre m'avait enchanté à sa sortie en 97, vu l'énorme succès qu'il a remporté. Je n'étais pas le seul à être tombé sous le charme. La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerme. Ma première gorgée de bière a été pour moi une cuillère de glace. Une glace au café. C'était presque un an après la fin des traitements de mon premier cancer. Les séances de radiothérapie avaient eu raison de ma tumeur. Elles avaient aussi eu raison d'une partie de mon arrière-bouche. J'avais totalement perdu le sens du goût. N'ayant pas de goût, j'en ai perdu l'appétit. Chaque fois que je tentais un plat, même ceux que j'adorais autrefois, j'étais déçue. Plus que déçue, dégoûtée par cette sensation de carton que je mâchais. Boire de l'eau devenait un supplice. Et curieusement, durant toute une période, le cidre était le seul aliment, liquide ou solide, que je pouvais ingérer sans répulsion. Ce n'est pas faute d'avoir essayé pendant ces longs mois de renouer avec la gastronomie, qui est mon péché mignon. La bonne cuisine est, oserais-je le dire, importante pour mon équilibre. Les émotions gustatives qui me procurent certaines tables sont presque de l'ordre de la mystique. Et je me souviens encore, comme si c'était hier, du choc que j'avais éprouvé chez Joël Rebuchon la première fois que j'ai dîné chez lui. C'était comme si j'avais découvert un Renoir dans mon grenier. Une merveille. Je ne fréquente pas régulièrement les tables étoilées, mais quand j'y vais, je suis comme un gamin. C'est une fête, un enchantement pour mes yeux, pour mes papilles, pour mon esprit. Je ne suis pas exclusif. Je suis également fan de bistrots, les bons bistrots où l'on sert la vraie cuisine familiale bien goûteuse, et puis des brasseries, autant pour la cuisine que pour l'agitation, l'ambiance d'un bon enfant qui y règne, si gai, si vivante. En fait, je suis un gourmet plutôt gourmand. J'en ai fait des tentatives après mon traitement pour retrouver ce bonheur simple de ma vie. Les sushis que je dévorais par douzaines. Quelle déception de les sentir dans ma bouche aussi insipide que de l'eau. Comme les huîtres que je gobais jusqu'à plus soif et qui d'un coup ressemblaient dans ma bouche à un morceau de caoutchouc. Même les tripes à la mode de Caen m'ont laissé insensible. C'est dur dire où j'en étais. Au bout de quelques bouchées difficilement déglutis, j'avais abandonné mon plat à regret. Pourtant mes goûts n'avaient pas changé. J'avais les mêmes rêves gastronomiques, salés plutôt que sucrés, mais face à un plat, quel qu'il soit, je n'éprouvais qu'un immense rejet. Et puis, il y a eu cette première cuillerée de glace au café et mes retrouvailles avec le goût. Je ne me souviens ni de lieu, ni du moment. Je ne sais même plus avec qui j'étais. Seul me reste cette sensation de froid qui a soudainement réveillé mes papilles et puis tout de suite après, le parfum du café sucré qui envahit mon palais. Je ne m'y attendais pas, même si pour la première fois depuis plus d'un an, j'avais enfin eu envie de manger quelque chose. Peut-être cette envie était-elle une prémonition, cela me plaît d'y croire. Mais comment raconter cet instant? Comment décrire l'effet sur moi de cette première cuillerée de glace? Formidable! Le mot me semble faible pour dire cet éblouissement, et puis ce bonheur qui m'a gagné. J'ai souri, j'étais heureux de ce cadeau qui venait de me faire la vie. Objectivement, c'est un événement dérisoire. C'est pourtant l'un de ces instants fugaces que nous gardons tous longtemps en mémoire, dont le souvenir des années plus tard continue de nous réjouir. Depuis cette cuillerée, je suis plus ouvert aux toutes petites choses de la vie. Celle qui nous procure autant de bonheur que ce qu'on a coutume d'appeler un événement marquant.
Voici la fin de mon chemin sur terre. Je suis à toi, accueille-moi. Mon père, voici mon âme séchée vos larmes, mes frères. Je m'en vais là où brille la lumière.
La vie est faite de petites surprises auxquelles il importe d'être attentif. Sinon, elles peuvent nous passer sous le nez sans même qu'on les ait remarquées. Sous l'effet d'électrochoc produit par le froid de ma bouche, aurais-je été aussi bousculé par les subtilités des parfums de cette glace? Je ne les aurais pas guettées de la même manière, c'est certain. Et sans doute qu'en les guettant, le plaisir en fut décuplé. Jusqu'à produire cet instant qui, pour moi, fut réellement magique. Même quand on a l'impression d'avoir une vie toute tracée, routinière, métro, boulot, dodo, il faut savoir lever le nez, repérer des moments sympathiques, et il y en a toujours, sortir de ses petits soucis et regarder autour de soi. Au lieu de se concentrer sur notre nombril, réjouissons-nous des petits événements qui sont là, toujours là. ouvrons les yeux, un café, même à la machine à café, avec quelqu'un que l'on aime bien. Une conversation rigolote, happée dans un bistrot, un parfum, une couleur, une odeur, une musique qui nous plaît. Ce ne sont pas les grandes surprises qui font notre quotidien, mais ces petites choses qui parlent à notre sens, attisent notre sensualité, nous rapprochent ainsi d'une certaine forme de sacré, indissociable de la joie. Cherchons la sensualité dans tous les champs où elle peut s'offrir à nous. Manger, se balader, se blottir au fond d'un canapé, voilà des petits riens qui rendent la vie bien agréable. Au lieu d'attendre vraiment le prince charmant, sur son cheval blanc, ne zappons pas le petit rossignol perché sur un arbre. Nous zappons ces toutes petites choses de l'existence et avons tendance à négliger l'impact qu'elles peuvent avoir sur nous, sur notre bien-être mental et par ricochet physique. Elles peuvent nous nourrir, elles sont tout le temps sous nos yeux, ces petites choses-là. Il suffit de vouloir les voir pour qu'elles apparaissent. Elles peuvent, j'en suis convaincue, suffire à remplir une vie, à rendre heureux. Oser l'amour. Je suis un grand sentimental, au point que cela en devient parfois une faiblesse chez moi. On me prend très trop facilement par les sentiments. En fait, je suis d'abord très émotif. Je l'étais déjà enfant et je le reste affreusement. Émotif jusqu'à parfois pleurer devant un film, au cinéma ou à la télévision. Sur la route de Madison, de Clint Eastwood, m'avait noyé de larmes. La grâce d'une musique m'emporte aussi. Steve Wonder me fait quasi systématiquement pleurer. Quand je suis seule, je me laisse aller. Ça fait tellement de bien. En public, je suis toujours un peu gênée. Que de fois au cinéma, quand les lumières se sont rallumées, je me suis baissée, faisant semblant de chercher quelque chose par terre. Et ça dure, et ça dure.
Quand on était fauché, elle payait pour nous leur être. Et plus encore, afin qu'on soit tranquille, dans son café, il y avait un coin pour nous. On s'y mettait pour voir passer les filles, et j'en connais qui nous plaisaient beaucoup. Si par hasard on avait l'âme en peine, Laurette seule savait nous consoler. Elle nous parlait et l'on riait quand même. En un clin d'œil, elle pouvait tout changer. C'était bien.
Je ne pleure jamais de tristesse, mais je pleure de joie quand un petit quelque chose, souvent un rien, me plonge dans un état d'exaltation. Pas tout à fait normal, je l'avoue. C'est comme un trop-plein d'amour qui inonde brusquement mon cœur et a besoin de s'évacuer. Et ce ne sont pas quelques larmes qui picotent les yeux. Il m'arrive de pleurer comme une madeleine. L'environnement aseptisé de l'hôpital a toutefois eu raison de cette propension. Ici, je n'ai pas réussi à ressentir d'émotions assez fortes pour en être littéralement chavirée, au sens propre du terme. Ou alors peut-être que je suis trop préoccupée, sans me l'avouer, par ce qui m'a amenée dans cet hôpital. Ce trop plein d'amour, je le vis aussi quand je parcours un poème. J'aime la poésie et j'en lis volontiers. D'ailleurs, j'ai toujours un recueil à portée de main et je rêve de réussir un jour à écrire un vrai poème. Certes, j'ai écrit ou coécrit la plupart des textes de mes chansons, mais je ne les appelle pas des poèmes. Ceux-là portent leur mélodie en soi, ils ont une singularité toute particulière, ils n'ont pas besoin d'être chantés pour ouvrir l'esprit à l'imaginaire, ils sont chansons. Rares sont les textes de chansons que je qualifierais de poèmes, et rares sont les poèmes qui ont réussi à être chantés. Rares aussi les chanteurs qui ont réussi à chanter les poèmes. Jean-Louis Murat m'avait transporté avec son interprétation des Fleurs du Mal de Baudelaire. Françoise Hardy est parvenue à sublimer de manière merveilleuse un texte de Victor Hugo avec sa chanson « Si vous n'avez rien à me dire », tirée des Contemplations. J'ai moi-même été tentée par l'exercice. Je reste dans l'espoir de trouver une poésie que je pourrais chanter, mais je ne suis jamais tombée sur l'évidence. Un poème qui aurait été écrit pour moi, pour ma voix. C'est l'un de mes rares regrets. Dans ma vie, j'ai reçu beaucoup d'amour, à commencer par celui du public qui est venu me voir, m'écouter, m'applaudir, avec qui j'ai tissé des liens dont je ne pouvais même pas soupçonner la réalité et l'intensité quand j'ai débuté ma carrière. J'avais d'emblée besoin de cet amour pour avancer. Quand on est un personnage public, chanteur ou acteur, ou même politicien, c'est aussi parce qu'on a un besoin terrible d'être aimé, qu'on n'en a jamais assez. Cet amour, cette énorme dose d'amour, je la ressens physiquement, elle me fait vibrer, elle me galvanise, elle a pour moi une valeur spirituelle. J'en ai besoin aujourd'hui, plus que jamais, à l'heure où je suis affaiblie et où il m'est dur de me l'avouer, je ne sais pas si je pourrai recommencer à chanter. Je n'en suis pas encore rassasiée. J'aurais pu m'enfermer dans une tour d'ivoire, devenir antipathique, méprisant. C'était facile. J'aurais joué à la star, mais je serais passé à côté du plaisir que me procure cette bienveillance, cette sympathie spontanée que je rends de manière tout aussi spontanée. Et le public le sent. C'est bien cette relation. C'est bien d'entretenir un lien de sympathie avec les autres, même un petit truc de rien, de tout. Le sourire du marchand de journaux, le mot gentil de la boulangère, la lettre émouvante envoyée par un inconnu qui me raconte comment l'une de mes chansons a bouleversé sa vie. C'est bon à prendre ce petit sourire. Ce courant de sympathie qui s'installe spontanément, une relation très simple, très directe et très respectueuse. C'est l'un de ces petits ou grands rayons de soleil, de ces minuscules choses qui contribuent à rendre une journée agréable. Aimable. Évidemment, je m'en doute. C'est le chanteur que le public aime. Mais c'est déjà moi, même si ce n'est pas complètement moi. C'est une part de moi qui lui a apporté la joie. De toute manière, je me dissocie difficilement du chanteur Michel Delpech. Je prends ses succès, je prends l'amour qu'il suscite à mon compte, même si je sais que dans le regard des autres, c'est le seul chanteur qui apparaît. En oubliant parfois la personne qui est derrière. Mais c'est la règle du jeu. Je suis un sentimental. Pourtant, j'ai la terrible impression que dans ma vie, je n'ai pas tellement donné aux femmes que j'ai aimées, à mes enfants, à mes amis, aux autres. Je ne parle pas ici de dons matériels, mais d'une chose plus importante que cela, le don de soi, l'amour. Pourtant, quand je donne, je suis immensément heureux et je ne regrette absolument rien de ce que j'ai pu donner. J'en suis sincèrement bien plus heureux que lorsque je reçois. Alors pourquoi ce frein? J'ai naturellement tendance à être comme une huître, un peu renfermée, donnant l'impression de manquer d'entrain pour aller vers les autres, voire de m'en désintéresser. L'amour occupe pourtant une place très importante dans ma vie, et il occupe une place importante dans chacune de nos vies. Nous sommes logés à la même enseigne. Si on laisse la sécheresse envahir notre cœur, par arrogance, par timidité ou pour n'importe quelle autre raison, si on se blinde, on passe à côté d'une donnée primordiale dans l'existence. On peut rendre les autres malheureux, mais c'est surtout soi-même que l'on atrophie d'une part essentielle dans la construction du bonheur. Certains ont peur de se donner, peur de souffrir. Ils ont tort. L'amour n'est pas douloureux. C'est au contraire l'absence d'amour qui est douleur.
Avant ma première cigarette, avant d'avoir menti un jour à mes parents, à mon enfance, avant d'avoir été un autre, avant d'avoir touché mon corps, avant d'avoir connu l'orgueil, avant que la peur me fascine, avant d'avoir eu des angoisses, avant d'être cet imbécile, cet homme que plus rien ne dérange, j'étais un ange.
Bien que de tendance huître, j'aime les gens. Rares sont les personnes suffisamment mauvaises pour déclencher mon antipathie. Mais dans ce cas, mon rejet est total. C'est très rare. et je suis le premier à en souffrir. Cette anomalie me dérange. En général, tôt ou tard, j'essaye de rétablir le lien avec cette personne. Nous ne devenons pas meilleurs amis pour autant. Je ne me force pas à aimer, mais je tente, dans la mesure du possible, de dépasser le sentiment de rejet, parce que celui-ci me mine bien plus qu'il ne me touche l'autre. Je ressasse, rumine, et ce négatif me chagrine. D'une certaine manière, on peut dire que pour moi, la réconciliation est une démarche égoïste. Nous sommes tous aimés, mais nous n'ouvrons pas tous les yeux pour le voir. C'était « Vivre » de Michel Delpech. Lui qui, admet-il, n'avait jamais été un joyeux drill, redécouvre la beauté de la vie. L'amour, les petits plaisirs, l'écoute de soi sont ses nouvelles armes. Un témoignage éblouissant de force et de franchise. Bonne journée à vous, chers auditeurs. Merci.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes ne pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis. À présent que sonne l'heure. Des adieux à jamais, et je suis au regret de te dire que je m'en vais. Et je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis. À présent qu'a sonné l'heure des adieux à jamais. Mais je suis au regret de te dire que je m'en vais. Car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine.